RFI, bonjour, il est 16h en temps universel, bonsoir, 18h ici à Paris.
Nicolas Brousse.
Le second tour de la présidentielle iranienne opposera un ultra-conservateur à un réformateur quasi inconnu quand il est entré dans la course. Son portrait dans un instant. En RDC, les rebelles du M23 revendiquent la prise de contrôle de la ville de Kanyabayanga, une grande cité de plus de 60 000 habitants qui accueille en outre des dizaines de milliers de déplacés dans le Nord Kivu. L'Espagne, superstar du tourisme, le pays a battu son record de fréquentation l'année dernière, mais à chaque médaille son revers et les manifestations contre le surtourisme se multiplie. Reportage aux Canaries. En Iran, c'est donc un réformateur, Massoud Pezeshkian, qui est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec 42% des voix contre 38% pour son rival, l'ultra-conservateur Saïdi Jalili. Voici donc l'affiche du second tour de la présidentielle anticipée après la mort du président Ebrahim Raisi dans un crash d'hélicoptère le 19 mai dernier. 40% de participation pour ce premier tour, c'est le taux le plus faible depuis la naissance de la République islamique en 1979. Mais ce duel inédit va peut-être motiver les électeurs le 5 juillet prochain, car en 14 présidentielles, c'est la deuxième fois seulement qu'un second tour est nécessaire. Antoine Gayenne, qui est donc ce candidat réformateur qui crée la surprise?
Un grain de sable dans la campagne pour certains, un faux espoir pour d'autres. Massoud Pezeshkian, connu pour son franc-parler, n'a pas hésité à critiquer le pouvoir en place lors du mouvement de protestation provoqué par la mort de Mahsa Amini en septembre 2022. Sans remettre en cause le système, le candidat réformateur a dénoncé les méthodes de répression des manifestations contre le port du voile. Pendant cette campagne électorale, il s'est notamment démarqué de ses adversaires en diffusant dans son QG l'hymne du mouvement de protestation « Femmes, vie, liberté ». Ce chirurgien de profession, âgé de 69 ans, est député de Tabriz, grande ville au nord-ouest de l'Iran. Son expérience gouvernementale se résume à un seul poste, celui de ministre de la Santé, entre 2001 et 2005 dans le gouvernement du réformateur Mohamed Ratami. Pendant la campagne, le candidat a prôné un réchauffement avec les pays occidentaux, États-Unis en tête, pour lever les sanctions qui pèsent sur l'économie iranienne. Mais en Iran, la politique étrangère est une prérogative du guide suprême Ali Khamenei. La marge de manœuvre de Massoud Pezeshkian, s'il est élu, serait donc étroite.
Antoine Gayenne, des combats acharnés opposés encore ce samedi l'armée israélienne à des combattants du Hamas dans le nord de la bande de Gaza, où les conditions de vie des habitants sont tout simplement désastreuses, selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Dans ce contexte, un policier serbe en charge de la sécurité de l'ambassade d'Israël à Belgrade a tué ce matin un homme qu'il avait d'abord blessé en tirant à l'arbalète. À Belgrade, les détails avec notre correspondant Laurent Rouy.
L'attaque a eu lieu ce matin dans un quartier chic de Belgrade. L'assaillant, qui s'était fait passer pour un touriste, aurait demandé à un policier en faction devant l'ambassade d'Israël où se trouvait un musée avant d'extraire une arbalète de son sac et de tirer sur sa victime, le touchant au cou. Le policier a eu le temps de faire feu sur son agresseur avec son arme de service, le touchant plusieurs fois. L'homme est mort des suites de ses blessures peu de temps après. Le pronostic vital du policier était toujours en jeu samedi après-midi alors que des chirurgiens se démenaient pour enlever le carreau d'arbalète toujours dans son cou. La police, arrivée rapidement sur les lieux, a procédé à plusieurs arrestations dans les environs immédiats de l'attaque sans que l'on sache pour l'instant s'il s'agit de complices. L'auteur de l'attaque a été identifié comme un Serbe de 25 ans, récemment converti au wahhabisme. Cet attentat est une surprise en Serbie, un pays peu habitué au terrorisme et où l'antisémitisme est historiquement très faible, voire inexistant. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
On vote aujourd'hui et pour 3 heures encore pour la présidentielle en Mauritanie. 4504 bureaux de vote accueillent près de 2 millions d'électeurs appelés à choisir le prochain président parmi 7 candidats, dont le président sortant Mohamed Ould Razouani, qui brigue un second mandat. Les deux principaux concurrents sont le militant des droits humains Biram Dah Abeid, le deuxième des deux dernières présidentielles, et le président du parti islamiste Tewassoul, Amadi Ould Sidi El Mokhtar, première force d'opposition à l'Assemblée mauritanienne. Nous serons en direct de Nouakchott dans une heure. En attendant, dans l'est de la République démocratique du Congo, la ville de Kanyabayanga dans le Nord Kivu est passée hier aux mains des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Une chute qui intervient dans un contexte particulier quelques jours après la visite de la première ministre Judith Suminwa et à la veille du message à la nation du président Félix Tshisekedi à l'occasion de la fête de l'indépendance. La cité a résisté pendant un mois, mais les FARDC, leurs alliés et même même les casques bleus onusiens qui effectuaient des patrouilles n'ont pas réussi à maintenir la ceinture de sécurité autour de cette grande ville, plusieurs dizaines de milliers d'habitants et des déplacés, et une grande ville qui plus est située à un endroit véritablement stratégique. Confirmation avec notre correspondant à Kinshasa, Passion Ligodi.
La prise de Kanyabayonga revêt une importance stratégique majeure pour le M23 et ses alliés. Elle facilite la mobilité de leurs combattants, leur permettant d'atteindre par voie terrestre d'autres grandes agglomérations de la région. La prochaine cible potentielle est Kaina, une cité d'environ 30 000 habitants, suivie des Lubero centre, avant d'arriver à Butembo. Il ne faut que 5 heures de route en moto pour relier Kanyabayonga à Butembo, une ville d'environ 1 million d'habitants. Au-delà des aspects stratégiques, l'autre enjeu dans la région est humanitaire. La situation s'est davantage détériorée ces derniers mois avec l'arrivée des milliers de déplacés en provenance des zones telles que Rutshuru, Masisi et Walikale. Certains de ces déplacés vivent dans des familles d'accueil, tandis que d'autres sont installés dans des écoles et des bâtiments public. Depuis quelques semaines, la situation est devenue intenable, même pour les organisations humanitaires. Par exemple, le comité international de la Croix-Rouge a suspendu depuis fin mai la distribution d'aide alimentaire destinée aux déplacés situés sur l'axe Kanyabayonga, Burangiza et Bulundi, dans la chefferie de Bwito. Selon l'ONU, cette tension a entraîné le déplacement de 350 000 personnes rien que durant la semaine du 10 au 16 juin. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI.
Toute l'actualité africaine avec la première édition d'Afrique Soir tout à l'heure à 18h30, temps universel. À l'approche des vacances, l'Espagne, destination européenne parmi les plus ensoleillées, s'apprête à faire le plein. Mais attention au trop-plein. À Cadiz et Malaga, dans le sud de l'Espagne continentale, ont manifesté cet après-midi contre le surtourisme. Un ras-le-bol qui s'exprime aussi régulièrement sur l'archipel des Canaries, qui accueille des centaines de milliers de résidents étrangers ou issus de la péninsule espagnole. Là-bas, on surfe toujours sur la vague du 20 avril lorsque les 8 îles canariennes ont connu des manifestations de grande ampleur. Reportage de François Musso.
Aux Canaries, on compte 2 200 000 habitants et l'an dernier, 16 millions de touristes. Certes, ce secteur est vital, il pèse plus de 30% dans le PIB régional et plus encore si l'on prend en compte son impact de façon indirecte. Mais ce déséquilibre est tel qu'un sentiment d'étouffement s'est emparé d'une partie de la population, ce qui explique une manifestation historique qui s'est déroulée en avril et qui a laissé des traces. Benaïga, infirmière, fait partie d'un de ces nombreux collectifs en colère.
Ça a changé notre manière de nous organiser, ça a fédéré toutes les organisations sociales qui peuvent enfin se plaindre. Et ça ne fait que commencer.
C'est tout le paradoxe d'un archipel, et notamment l'île de Gran Canaria, où les gens vivent du tourisme, mais supportent en même temps de moins en moins ses effets pernicieux. C'est le cas d'Enrique, jeune professeur d'histoire.
On arrive à saturation, à tout point de vue. C'est valable pour les infrastructures, mais aussi pour notre façon de vivre et plus généralement pour le tissu social de l'île.
Officiellement, les autorités de l'île et de l'archipel, une des 17 régions espagnoles, disent approuver et comprendre la population. Mais dans la pratique, rien n'a encore été fait pour corriger le tir. Au contraire, les objectifs officiels sont d'accroître encore davantage le nombre de visiteurs cette année. François Musso, Las Palmas aux Canaries, RFI.
Corollaire de ce surtourisme, les déplacements en avion qui contribuent au réchauffement climatique. À ceux qui n'y croient pas, notez que l'on vient d'achever une série de 469 jours. Oui, plus de 15 mois consécutifs où la température des océans de la planète a battu tous les jours un record. Il a fallu attendre hier pour que cela s'arrête. Mais malgré cela, la température océanique reste toujours à un niveau très élevé et donc toujours aussi préoccupant, Simon Rosé.
Une série entamée en mars 2023 et les océans sont depuis entrés en territoire inconnu, avec parfois des records dépassant la normale d'un degré. Ça a l'air peu dit comme ça, mais il faut réaliser l'énergie nécessaire pour réchauffer l'ensemble des mers sur la totalité de la planète d'un degré, énergie qui alimente la machine climatique. Si pour la première fois depuis 469 jours, ce vendredi 28 juin n'a pas battu le record de température, on reste toujours à un niveau très élevé que n'expliquent pas entièrement les scientifiques. Le réchauffement climatique joue un rôle important, tout comme le phénomène El Niño qui a contribué à cette série inédite, mais encore une fois, l'ampleur de l'écart par rapport à la normale et la durée de cette anomalie ne cesse d'interroger. Les prochains mois vont être importants pour savoir de quoi il en retourne. Avec la fin annoncée de l'épisode El Niño, on peut espérer enregistrer des températures moins exceptionnelles, même si les océans continueront de se réchauffer en tendance tant que les émissions humaines de gaz à effet de serre se poursuivront.
Simon Rosé, chef du service environnement de RFI. Tout de suite, Mondial Sport, je vous retrouve juste après pour un prochain journal, 16h10 en temps universel.